suis youtubeur depuis maintenant 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai créé une chaîne YouTube en décembre de l'année 2013 et je me suis fait connaître sur YouTube pour mon talent d'imitateur que j'ai depuis tout petit.
Depuis que je suis un gamin, je peux changer super facilement ma voix et faire plein de personnages. Ça va de Homer Simpson à Alex Louis Armstrong
ou enfin des tas d'autres, quoi. Je peux faire tout plein de voix et ça depuis que je suis gamin, qui m'a souvent permis de pouvoir m'illustrer et de sortir du lot par la compétence vocale. Quand j'étais plus petit, c'était un moyen pour moi de sociabiliser pas mal. J'étais un petit peu le mec marrant qui fait des voix rigolotes, ce qui me permettait de me faire des potes dans la cour de récré. Et justement, en 2013, quand j'ai sorti ma première vidéo, c'était encore une fois un coup de mes potes qui m'ont dit « Mec, tes voix, elles sont marrantes, tu maîtrises plutôt bien pas mal de personnages. Est-ce que ça te dirait de mettre en ligne une vidéo YouTube où tu montres un peu toutes les voix que tu sais faire ?» Et j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et il s'avère que cette première vidéo, qui est aujourd'hui toujours sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « 51 imitations et bruitages », a buzzé. Du jour au lendemain, j'étais suivi par des milliers de personnes. J'ai pas connu la traversée du désert typique que vivent la plupart des youtubeurs. J'ai pas connu cette période où t'as genre 0, 10, 15, 20, 30, 1000 abonnés. J'ai fait de 0 abonnés à genre 10 000 abonnés en moins de 2 semaines, par exemple. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait des dizaines de milliers de vues. Ma vidéo a été repartagée par des pages Facebook un peu milieu de buzz et compagnie très putaclic. Enfin bref, ma vidéo avait tourné à mort à l'époque. Je venais d'entrer au lycée, si je dis pas de bêtises, ou j'allais entrer au lycée, je sais plus. Quand je l'ai posté. Et voilà, du coup, du jour au lendemain, j'étais entre guillemets devenu un peu le mec connu de mon bahut et tout, c'était trop cool, enfin voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer. Et j'ai donc continué à produire des petites vidéos rigolotes, toujours un petit peu, qui reprenaient un peu ce talent que j'avais pour les imitations. Mais ça a été à double tranchant, pour la simple et bonne raison que l'immensité des gens s'étaient abonnés au final pour une performance, parce que je les avais fait marrer sur un truc qui avait buzzé. Savoir cette fameuse vidéo où j'enchaînais tout plein d'imitations, vraiment un format très fast-food, on va dire, dans le milieu YouTube. Et les vidéos que j'ai fait par la suite étaient un peu moins abouties, un peu moins travaillées artistiquement et techniquement, puisqu'en fait, il y avait déjà un gap à ce moment-là entre la popularité, on va dire, du contenu que j'avais publié et la qualité technique de ce que j'avais fait, qui était encore... À l'époque, pas hyper génial. Hein. Je me souviens, je m'étais filmé avec l'espèce de petit caméscope familial. J'avais fait un montage un peu à la schlag. Enfin, c'était vraiment des trucs pas ouf, tu vois. Et donc, j'ai continué malgré tout à produire au début des espèces de petits sketchs avec des voix, puis un petit peu des sketchs audio, avec notamment un format qui s'appelait Les Dialogues de l'Impossible, truc un peu dans le genre des deux minutes du peuple, puisque j'ai toujours eu une affection et pour le son et pour l'écriture. Donc ça, c'était vraiment un moyen pour moi de concilier ces deux domaines à l'époque. Mais le fait est qu'au final, ça faisait pas beaucoup de vues, tant et si bien qu'à l'époque, je m'étais retrouvé avec une chaîne qui avait quasiment 50, 100 000 abonnés dans ces eaux-là et que je peinais à faire ne serait-ce que 10, 15, 20 000 vues. Enfin, c'était un peu galère. Et justement, pour monter en croissance, en audience, je me suis dit, bon, puisque les gens, ce qu'ils aiment, c'est les imitations, je vais vraiment leur en servir, je vais faire des formats vraiment centrés là-dessus, plus que des espèces de petits sketchs et tout, sachant qu'à l'époque, YouTube et les youtubeurs, c'était en voie de professionnalisation, ça commençait à peine. La monétisation, si je ne dis pas de bêtises, est arrivée en 2015, donc à peine 2 ans après que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était quelque chose qui était encore très frais. Envisager une carrière sur YouTube, ça commençait à peine à être un truc qui se dessinait pour les gens. Et même moi, à l'époque, pendant très longtemps, c'est resté un truc à côté de mes études, d'avoir une chaîne YouTube. Mais le fait est que je me suis dit que je voulais pas lâcher parce que c'était pour moi un espace d'expression et que j'ai toujours eu la fibre un peu créative. J'ai toujours voulu créer des choses, les partager auprès d'un public. Et du coup, j'ai créé donc ce fameux format en lien avec les imitations qui s'appelle Vox Populi, ce qui en latin veut dire la voix du peuple. Et en fait, c'était un moyen pour moi de partager dans une petite émission rigolote une imitation que je maîtrisais pas trop mal et expliquer aux gens comment imiter justement ce personnage. Quelles astuces j'utilisais. C'était surtout un prétexte pour faire un petit sketch avec la voix du dit personnage. Mais le fait d'avoir à la fois le côté tutoriel, comment imiter Homer Simpson, comment imiter Jean-Pierre Pernaut, comment imiter l'âne de Shrek, etc. Je pense que ça faisait du clic de ouf parce qu'il y avait et le côté tuto et le côté performance vocale. Et ce format-là a très bien marché. J'ai réussi à faire plusieurs centaines de milliers de vues à chaque fois que je sortais des vidéos dans ce format. Les plus populaires ont quasiment tapé le million de vues. Il me semble que celle sur l'âne de Shrek, elle doit être à peu près 800 000 vues, voire déjà 1 million Voilà. Et du coup, en fait, ça m'a porté un peu dans cette espèce de phase de croissance grâce à laquelle je suis arrivé aux alentours de 100, 150 000 abonnés dans ces eaux-là. Et en parallèle à ça, j'ai commencé à être un peu identifié comme le mec qui fait des voix sur YouTube. À l'époque, il y avait aussi Ganesh et un peu plus tard, il y a Jesse Imitation qui est arrivé. En fait, c'est l'avantage que j'ai toujours eu sur YouTube, c'est que j'étais sur ce domaine de niche parce qu'il y avait cette barrière à l'entrée de l'imitation. Changer sa voix, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire ou que tout le monde ne sait pas faire forcément facilement avec une certaine aisance. Et ça créait en fait cette espèce de phénomène de rareté qui faisait que, au final, si tu voulais des bonnes imitations, tu avais à tout péter 3 ou 4 chaînes YouTube. Et dans le tas, il y avait forcément la mienne, quoi. Et du coup, il y avait ce côté un peu sectoriel que n'ont pas forcément les autres YouTubeurs qui, entre guillemets, sont en compétition sur certaines thématiques, certains sujets. Nous, on était, et on est encore aujourd'hui, pas hyper nombreux à faire des trucs vraiment centrés sur la performance vocale, la voix, le fait de changer sa voix. Et ça m'a donné cette espèce de position sécurisante et ça m'a fait être identifié auprès du public, mais aussi auprès d'autres YouTubeurs, comme étant quelqu'un qui proposait ce genre de choses. Et typiquement, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir travailler avec d'autres YouTubeurs qui avaient besoin de voix off ou de voix rigolote pour des projets. J'ai bossé 2 ou 3 fois pour le joueur du grenier quand il avait besoin de voix off. J'ai pu bosser avec Amixem, j'ai pu bosser avec des chaînes qui faisaient de l'animation, du cartoon, etc. J'ai une playlist qui malheureusement n'est plus à jour, où j'avais mis toutes les collabs que j'avais fait. Et franchement, je pense que je suis intervenu dans une bonne cinquantaine de vidéos sur d'autres chaînes à droite à gauche. Après, le fait que c'était justement des participations, on va dire, vocales, que c'était purement un fichier MP3 que j'envoyais aux youtubeurs, la plupart des gens ne se doutaient pas forcément que c'était moi. Mais le fait est que ça m'a permis quand même d'avoir des petits coups de pouce, des petits retours d'ascenseur. Et ces gens-là m'ont fait de la pub, ce qui m'a permis de gagner très rapidement des dizaines de milliers d'abonnés de manière très facile. Et encore une fois, ça a été à double tranchant. Parce qu'au final, moi, j'ai pas eu une audience qui s'est faite de manière hyper organique et dans la durée, etc. À chaque fois, en fait, quand tu regardes la construction de ma chaîne YouTube, ça s'est fait sur des vagues de buzz ou des impulsions données par l'extérieur, données par des collabs, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle je suis encore aujourd'hui avec une chaîne qui est suivie, entre guillemets, par plus de 500 000 personnes, mais au final, des audiences qui s'apparentent à celles d'une chaîne qui a plutôt entre 80 000 et 100 000 abonnés. Quand tu regardes les audiences que je fais, c'est assez rare qu'elles soient corrélées à d'autres chaînes qui ont 500 000 d'abonnés. Après, le fait est qu'elle a 9 ans aussi, donc ça joue énormément le phénomène d'ancienneté. Mais je pense que ce côté, les gens sont abonnés parce que tu les as fait marrer sur une compilation d'imitation, fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui, au final, sont abonnés pour le contenu que je vais proposer un peu plus régulièrement, etc. Bref. Du coup, voilà, cette première partie de ma vie de YouTuber, elle était vraiment centrée sur... sur l'humour, sur les imitations, malgré quelques petites tentatives d'écriture de temps en temps avec des formats tels que les instants poètes pour les plus anciens qui peuvent connaître. Je m'amusais typiquement à écrire des poèmes et à les réciter face caméra. En termes de référencement et d'algorithme, c'était jamais hyper, hyper intéressant, mais j'ai toujours eu cette envie voilà, de créer pour montrer aux gens voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Et du coup, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin et en 2017, j'ai commencé à me dire, mais au final, ce que j'aime aussi, c'est raconter des histoires. Et j'ai lancé sur ma chaîne YouTube un format qui s'appelle les Super Flame Stories et dans lequel je raconte face caméra des histoires que j'écris sous la forme de petites nouvelles au début, des petites nouvelles un peu fantastiques, horrifiques. Ça s'appelle donc les Super Flame Stories. C'est un truc tout con, hein, ça s'écrit vraiment comme une nouvelle papier. Sauf qu'en fait, moi, je vais la lire à l'aide d'un prompteur et vu que je sais transformer ma voix, eh bien, je vais faire la voix de tous les personnages. Ce qui me permettait de rajouter beaucoup de vie dans ces petits récits audio. Alors, ces formats-là, bien entendu, font encore beaucoup moins de vues que les imitations, mais j'ai remarqué qu'il y avait un engagement du public qui était d'un nouveau genre, une volatilité des audiences qui était beaucoup plus faible sur les contenus, on va dire, un peu plus mainstream, un peu plus hamburger, comme j'aime bien les appeler. Quand tu regardes les commentaires des gens, c'est « Haha, trop drôle, PTDR, tu fais bien ça, machin. » Et sur les histoires, c'était plus « Ah, je suis curieux de savoir ce qui va arriver à ce personnage, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ci, sur ça, machin. » En fait, j'ai remarqué que les gens étaient impliqués par ce que j'avais créé et plus par moi en tant que personne qui avait fait une performance particulière. C'était vraiment, on va dire, le récit, les personnages qui intéressaient. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans un challenge en 2017, en décembre. Et je me suis dit, je vais diffuser pendant 24 jours, du 1er au 24 décembre, chaque jour, un chapitre d'une longue histoire. C'était la première fois que je faisais ce format-là, en format, on va dire, long. Auparavant, je faisais vraiment un épisode égale une histoire. Et là, je me suis dit, voilà, du 1er au 24 décembre, en 2017, je vais diffuser un truc et chaque jour, il y a un chapitre avec la résolution de l'intrigue le 24 décembre, à la manière d'un calendrier. Et ça tombait bien, puisque le titre de cette histoire, c'était « Le calendrier d'avant la fin des temps », une histoire qui raconte le quotidien d'un petit village de montagne qui s'appelle Marmottin. Marmottin, c'est un mélange entre marmotte et bouquetin. Sauf que moi-même, je vis en Haute-Savoie, j'ai souvent vécu en montagne ou dans des petits villages, et c'est pas mal imprégné de références que j'ai pu avoir, moi, dans la vie, dans mon quotidien. Notamment tout ce qui touche à la neige, aux routes impraticables, des choses comme ça, qui sont vraiment des choses un peu typiques du climat montagneux. Et l'intrigue, donc, prenait place dans ce petit village, et on suivait un personnage principal qui s'appelait l'inspecteur Nathan Bloom, qui est un petit peu le bon père de famille, qui vient d'arriver là, dans la petite police locale, qui n'a jamais eu affaire à véritablement des crimes assez graves. Sauf que là, pas de bol, le 1er décembre, on découvre le cadavre du maire de la ville, sachant qu'en plus sa tête a été séparée de son corps et que sa tête, on l'a retrouvée au sommet du sapin qui trône devant l'hôtel de ville. Donc c'est le point de départ de cette intrigue où on va se rendre compte de fil en aiguille qu'il y a des éléments paranormaux, fantastiques, en lien avec de la magie qui sont impliqués dans le déroulé des événements. Et on va voir le surgissement de certains personnages, et notamment d'un personnage qui s'appelle Andrew Bennett, qui est aujourd'hui un des personnages principaux de l'univers étendu que j'essaie de développer. Et voilà, donc c'est vraiment un récit que je qualifierais de polar fantastique, polar pour le côté enquête et fantastique pour l'aspect, y a de la magie dedans. Ça a pas mal plu. J'ai décidé de faire des petites rencontres abonnées à peu près dans la période justement où je diffusais ça. Il s'est avéré que lors d'un événement à Annecy où à peu près une petite cinquantaine de personnes sont venues me voir, je me suis rendu compte que les retours étaient vraiment centrés sur cette histoire, sur cette œuvre qui est en cours de diffusion. Très peu de gens qui me posaient des questions sur les imitations, etc. Ils me disaient tous, mais c'est quand la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Je veux en apprendre plus sur ce personnage, à quand une suite, etc. etc. Et là, j'ai compris au plus profond de moi-même que j'avais créé quelque chose qui impliquait beaucoup les gens de manière émotionnelle, que j'avais réussi à les transporter par un récit, par des personnages, et que c'était un truc qui touchait à quelque chose d'humain, d'émotionnel et d'important pour moi. Et je me suis dit que je voulais continuer dans cette voie de raconter des histoires, de dépeindre des univers, de raconter des personnages. Et j'ai contacté une boîte de prod sur laquelle j'étais tombé par hasard quelques années plus tôt lors d'une convention à Fréjus, à la Mangame Show. C'était des gens qui m'avaient interviewé parce qu'ils étaient un peu les responsables des interviews des invités, donc une boîte qui s'appelait Sound Life Productions. Et je les ai recontactés un peu par hasard parce que j'étais allé mater sur leur page Facebook à l'époque parce que en dehors des prestations pour des entreprises qu'ils faisaient à droite à gauche, il leur arrivait de faire de la fiction et notamment des 48 heures film festival et trucs comme ça, et ça leur arrivait assez souvent de gagner des prix. Et je me suis dit, bon, je trouve assez calé leur production, au hasard je vais les contacter. Et ils ont dit, bah chaud, on monte un projet ensemble, on fait une petite série, mais cette fois-ci filmée. Donc cette série qui s'appelle Andrew Bennett et qui est pas mal inspirée de ce que j'ai pu dépeindre dans le calendrier d'avant la fin des temps. Cette série, on l'a financée en partie grâce à un crowdfunding au cours duquel on a récolté près de 50 000 euros, et aussi grâce à l'aide CNC Talent qui venait justement d'être créée. Si je dis pas de bêtises, soit elle venait d'être créée, soit elle avait été créée quelques mois ou juste l'année avant, quoi, l'aide CNC Talent. On faisait partie soit de la deuxième, soit de la troisième promo à l'époque, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui ne savent pas, le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. C'est ce qui gère au niveau national, on va dire, les subventions pour la création audiovisuelle. Et depuis 2-3 ans, à l'époque, depuis un an, pardon, à l'époque, il y avait justement cette aide CNC Talent qui s'adresse spécifiquement aux créateurs issus d'Internet, du web, et qui leur permettait de pouvoir avoir jusqu'à 30 000 euros dans le cadre d'une aide à la création, 50 000 euros dans le cadre d'une aide à l'éditorialisation des chaînes YouTube. Et en fait, ce qu'ils te filaient, c'était typiquement de l'argent qui était en partie donné par YouTube, ce qui leur permettait, entre guillemets, de se racheter par rapport au fait qu'ils faisaient de l'évasion fiscale et des trucs comme ça. Bref, c'était de l'argent qui était un peu réinjecté dans les chaînes YouTube. Et nous, on a obtenu une aide à la création donc, qui valait 30 000 balles. Et on a pu donc faire ce projet de web-série de manière assez difficile, puisqu'il était prévu qu'on ait aussi des subventions de la part de la région Occitanie à l'époque. des mecs qui nous avaient dit « Ouais, votre projet, il est génial, vous êtes jeune, c'est Internet, c'est trop bien, c'est le web, en plus, c'est du fantastique, c'est innovant, ça change. » Et ces gens-là nous disaient qu'en gros, on pouvait espérer obtenir un petit 40 000 euros. Et il s'est avéré qu'au final, cet argent, on ne l'a pas eu, on n'a jamais vu la couleur. Puisque après que notre projet soit passé en commission, on nous a dit « Mais en fait, on n'a pas bien compris, mais en fait, c'est pas une prod télé et on ne comprend pas. Du coup, est-ce que c'est du policier ou est-ce que c'est du fantastique ? On comprend pas votre récit, on comprend pas votre histoire, votre univers, c'est un peu bizarre. » Bref, c'est des gens qui, de base, étaient un peu plus habitués à des, on va dire, des productions télé un peu classiques, type Plus belle la vie, des machins comme ça, on va dire. Et dès que tu fais un truc qui sort un peu des clous en audiovisuel, mais d'une manière générale en France, c'est toujours très compliqué à financer parce que les mecs ne financent pas ça, partent du principe que ça marche pas, etc. Enfin, bref. Et du coup, la prod a été marron de 40 000 euros sur ce projet-là à l'époque. Enfin bref, il en est qu'on a quand même réussi à faire ce projet qui est donc un 10 fois 10 minutes, qui est dispo sur ma chaîne YouTube et qui s'appelle Andrew Bennett. Ce projet, on l'a fait avec une équipe d'une cinquantaine de personnes. Faut savoir que moi, j'étais du coup l'auteur principal et le comédien principal, on va dire le porteur du projet grâce à ma communauté. Mais j'ai délégué la production, hein, tout ce qui est la réalisation, le montage et tout. J'ai tout délégué ça à Sound Life Prod à l'époque. Et on a réussi voilà, à pondre ce bébé. On a fait une petite avant-première au cinéma à Montpellier. C'est assez émouvant d'arriver à remplir une salle que d'abonnés, de fans, salle de cinéma pleine à craquer, de gens qui étaient venus pour voir l'avant-première. Et on avait fait un montage spécial sous la forme d'un long métrage exprès pour pouvoir le diffuser en salle. Et à la fin, on a eu le droit à la standing ovation, les larmes un peu aux yeux et les gens qui nous ont dit, bah, putain, c'est génial, vous avez réussi à faire un truc de dingue. Mais je suis sorti un peu affaibli de cette expérience. D'une part, parce que ça correspond à une période où mon papa a fait un burn-out et était vraiment pas bien. Et en plus de ça, je me suis rendu compte à quel point c'était une expérience épuisante et éprouvante d'être sur un tournage et au final de se rendre compte que le projet en lui-même, qui du coup a été diffusé sur ma chaîne YouTube et revendu à des petits diffuseurs à l'étranger, c'est pas rentable en fait, c'est pas rentable du tout. Et on a perdu beaucoup d'argent. Alors on l'a pas fait pour l'argent bien sûr, mais le fait est qu'en gros tout l'argent a été claqué et ça n'a pas été rentable pour un sou, tu vois. Et du coup j'ai eu cette espèce d'intuition de me dire ok, c'est aller sur de l'audiovisuel tout de suite, c'est peut-être pas un modèle qui va m'intéresser. Parce qu'en fait, on va dire qu'il y a deux écoles quand tu veux essayer de créer, on va dire, des films, des longs-métrages, etc. C'est le modèle de base, c'est de dire, moi, j'accepte de cocher les cases, j'accepte de jouer le jeu des subventions, j'accepte de monter des dossiers, d'essayer de plaire à des gens qui sont dans des commissions, j'accepte de me censurer, j'accepte de parler de certains sujets, de ne pas parler de certains sujets, etc. J'ai beaucoup de collègues et d'amis qui font ça. Et qui disent bah oui c'est comme ça que ça marche donc tu peux pas produire exactement l'œuvre que tu veux, mais moi vu que je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, quand j'ai une idée en tête je veux aller au bout, je déteste me censurer et si j'ai une idée d'œuvre finie je veux pouvoir un contrôle créatif dessus, je veux pouvoir la financer assez rapidement, je veux pouvoir avancer quoi. Ça c'est un truc qui est assez typique chez moi et dont je me suis rendu compte, j'ai un besoin vital de toujours avancer, de toujours aller de l'avant et du coup on va dire que cette logique-là, ce mode de fonctionnement de l'industrie, on va dire classique, ne me correspondait pas. Et du coup, plutôt que me brider dans mes récits, me brider dans mes scénarios et tout, je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais rester encore quelques temps sur de l'audio, parce que l'audio, ça coûte pas cher à faire. Et au final, comme ça, je peux quand même sortir mes récits. Ça me permet de sécuriser ma propriété intellectuelle et j'attendrai d'avoir suffisamment d'argent pour mettre en image, en fait, ce que je veux faire. Et du coup, j'ai continué pendant plusieurs années à diffuser des fictions audio sur ma chaîne YouTube et en gagnant un peu d'argent en vendant les versions papier de ces fictions audio qui, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, sont écrites de base vraiment comme des nouvelles, comme des romans. Et l'avantage de ça, c'est que tu n'as plus qu'à imprimer et mettre une jolie couverture et les gens, ils achètent. Et ça marchait pas trop mal, en fait. À chaque fois que je sortais la version papier d'une de mes séries audio, je vendais très facilement plus de 1000 exemplaires. Sachant que vu que c'était de l'auto-édition, je pouvais toucher jusqu'à 5, 6, 7 euros sur certains livres, ce qui me permettait de vivoter, on va dire, sur ce genre de projet, en plus des revenus YouTube à droite à gauche. Et j'ai commencé à me dire, et si, au lieu de vendre des livres papier, juste des livres papier, j'essaie de voir si je peux vendre des séries audio carrément. Et du coup, j'ai tenté l'expérience, j'ai créé une série audio qui s'appelle Les Démons d'Hugo, qui est dans le même univers que le calendrier d'Avant la fin des temps. Et cette série audio, j'ai dit, au lieu de la mettre sur YouTube gratuitement, celle-là, je vais la vendre. Je vais la vendre. En gros, je vais mettre les 10 fichiers MP3 de cette série dans un fichier zip et je vais vendre ce fichier zip grâce à Utip, qui est donc une plateforme de financement participatif et qui te permet aussi de vendre des produits numériques et des produits physiques. Et j'ai tenté le coup. Je vendais l'intégralité de la série pour 16 balles. Et là, encore une fois, j'en ai vendu genre 500, 600 exemplaires. Donc ça a été un carton, ça m'a permis de rentrer beaucoup d'argent. Et j'ai aussi compris, du coup, que oui, les gens sont prêts à acheter véritablement des histoires qui leur plaisent, des récits qui leur plaisent, qui sont travaillés. Du coup, j'avais fait les choses bien, j'avais écrit, j'avais fait les voix des personnages. Mais j'avais confié tout le mixage à un ingénieur du son, toutes les musiques ont été composées par un musicien exprès et tout. J'ai vraiment essayé de faire une vraie œuvre complète, début, milieu, fin, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, OK, il y a peut-être moyen de moyenner les choses. Du coup, j'ai commencé à avoir cette idée de créer une plateforme dédiée à l'écoute de fiction audio qui a commencé à germer dans ma tête. Et ça tombe bien, puisque genre un ou deux ans plus tard, non, je dirais deux ans plus tard, ouais, dans ces eaux-là, c'est un peu confus dans ma tête. Non, peut-être trois ans plus tard, je ne sais plus. Au moment où je diffusais Pico Vent ne répond plus sur ma chaîne YouTube, voilà. Au moment où je diffusais Pico Vent ne répond plus sur ma chaîne YouTube, j'ai été contacté par un ingénieur du son qui s'appelle un ingénieur logiciel qui s'appelle Kevin Cousin, qui me disait, salut mec, voilà, moi je suis ingénieur, j'ai bossé en start-up, j'ai bossé dans le secteur ferroviaire, j'ai bossé dans le secteur bancaire, je suis un ancien de chez Spendesk, là j'ai une période de chômage, j'adore tes histoires, je les écoute dans les transports en commun quand je vais au boulot. Si jamais tu as besoin d'un développeur pour un projet, moi je suis chaud de bosser avec toi. Et je me suis dit, bon allez, qui ne tente rien n'a rien, chiche, vas-y, on se fait un call Skype. À l'époque, j'utilisais beaucoup Skype encore. Et en fait, on a discuté ensemble beaucoup plus longtemps que prévu. À la base, je me suis dit, ouais, ça va être un call comme ça pendant un quart d'heure, on va blablater, ça va être marrant. Et au final, on a discuté ensemble de genre de 20h à 3h du matin. On a refait le monde à deux un petit peu et on s'est dit, bah let's go. En fait, on va essayer de créer cette plateforme qui s'appelle Tellington, qui est dispo aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas encore le nom de la plateforme. Le nom de code en interne du truc, c'était Superflix pour Superflame et Netflix. Parce que l'idée, voilà, c'était juste de dire, en fait, on crée une plateforme abonnement pour écouter des fictions audio originales. Basiquement, c'était ça, quoi. Et on a commencé donc à mettre en chantier ce projet avec, du coup, Kevin qui, lui, développait la plateforme et moi qui devais m'occuper du contenu. On a tous les deux avancé sur nos deux sujets respectifs et est venu le moment où on a vu l'air où on en était en termes d'avancée et on s'est rendu compte que ce qu'on avait créé, c'était sympa, mais la plateforme était vraiment pas ouf. D'un point de vue fonctionnel, ça buguait un peu. D'un point de vue design, c'était intolérable pour moi de sortir ça. Je suis quelqu'un qui est assez esthète. Et en fait, quand je trouve un truc moche, quand un truc ne me satisfait pas, je dis, si ça ne me plaît pas, je ne veux pas que ça sorte. Et il s'avère que je ne voulais pas que l'appli qu'on avait développée à l'époque, qui était vraiment pas ouf, pourrait vous montrer des petits schémas de ça. C'était vraiment pas ouf. Et on s'est dit, bon, bah, il va nous falloir un graphiste. Et en plus de ça, de toute façon, on s'est vite rendu compte d'un truc. Ouais, on a une plateforme, mais à un moment donné, la plateforme, il faut la remplir de contenu parce que personne ne va s'abonner pour écouter les histoires que j'ai déjà produites et pour écouter un ou deux trucs vite fait. Donc, il va falloir qu'on fasse autrement pour aller vers autre chose. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait basculer sur un autre projet qu'on avait dans les cartons à l'époque. Donc ça, ce dont je vous parle, on est il y a 2-3 ans. C'était avant le Covid. Si je dis pas de bêtises. C'était un petit peu avant le Covid. Et on avait dans les cartons, quoi qu'il arrive, un projet de jeu vidéo. Ça va être peut-être plus facile à bricoler, plus facile à faire, plus facile à vendre. On crée un jeu de cartes dans mon univers. Donc, ce projet qui s'appelle Battle for Agadir, pour lequel on a fait un crowdfunding, qui nous a permis de récolter quand même 40 000 euros. On en était très contents. Et là, on a eu un peu le même problème au final qu'on avait déjà eu avec Tellington à l'époque. C'était que ce qu'on avait fait ne nous plaisait pas. On trouvait les graphismes pas super cool, le gameplay pas ouf. Et on s'est dit, vas-y, on essaie de faire un truc un peu mieux. Et du coup, on a fait appel à un illustrateur qui avait un peu plus de bouteilles. On a commencé à repenser totalement le game design du jeu et on s'est vite rendu compte que si on continuait sur cette lancée-là, on risquait d'aller droit dans le mur parce que typiquement, on a fait des erreurs de débutants du genre recruter des illustrateurs intermittents du spectacle qui coûtent très très cher en tarif journalier et au final, on s'est rendu compte qu'on commençait à dépenser de l'argent de ouf. Et en gros, on est arrivé à un point où si on continuait sur notre lancée, 2 mois plus tard, la boîte, c'était le dépôt de bilan en fait. Et là, on a traversé une période un peu de crise où j'étais vraiment pas bien, Kevin aussi, où on était en mode, putain, on fait chier, on a promis quelque chose aux gens et on n'a pas... Et on n'est pas capable de le faire, quoi. En tout cas, pas pour l'instant. Et là, on a pris cette décision très difficile de dire, OK, ben on va freeze ce projet. On ne va pas l'annuler parce que quoi qu'il arrive, on le fera quand même. Mais on va prévenir la commune. On va leur dire, ben, les gars, on est désolé. Finalement, le jeu, en l'état, il ne nous plaît pas. Donc, on met en pause le projet et il sortira beaucoup plus tard que prévu. On le remettra en développement un peu plus tard. Et on rebascule sur Tellington parce qu'à l'époque, Tellington, c'était le seul projet, on va dire, qui avait un business model qui nous permettait de rentrer de l'argent et de vivre. Et du coup, on a mis le paquet sur Tellington. Le peu d'argent qui nous restait, on l'a dépensé en partie, notamment mes revenus YouTube aussi, dans le fait de créer une jolie charte graphique pour l'appli. On a fait appel à Balo, qui est un graphiste assez connu sur YouTube, pour nous faire un joli logo. On a fait appel à Basti UI, qui est aussi un UI designer assez connu dans le milieu de YouTube, Twitch, etc., pour nous créer des jolies interfaces. Et on a mis le paquet, du coup, sur Tellington. Et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, les très jolies illustrations qui nous coûtent très cher, on va les utiliser aussi pour illustrer les histoires de l'application. C'est pour ça qu'il y a certaines illustrations qui devaient servir dans le jeu de cartes et qui serviront aussi dans le jeu de cartes, qu'on a utilisées pour faire des... Basti connu dans la tech aussi, oui, bien sûr. Qu'on a utilisées pour illustrer justement les différents récits. En fait, on a très vite compris que ce qui nous sauverait la vie, c'est d'être dans des logiques de recyclage et de réutiliser des éléments qu'on avait déjà produits. Parce que typiquement, nos illustrateurs, on les paye bien. Une jolie illustration, comme il y a sur certaines de nos histoires, on paye ça à peu près 500 euros. Un joli dessin abouti, bien branlé et tout, dans un style un peu peint. Voilà, on paye ça 500 balles quand même. Donc, si t'en faut des dizaines, ça commence à chiffrer très vite. Mais le fait est qu'elles sont tellement jolies que tu peux effectivement les utiliser et comme illustration d'histoire, et comme illustration pour un livre papier imprimé, et comme illustration pour un poster, parce que bien sûr, on demande à nos artistes de travailler sur des très hautes résolutions, ce qui nous permet d'imprimer des choses en grand. Et on a commencé à développer toutes ces logiques-là, de pouvoir réutiliser le contenu et de pouvoir... les illustrations sont ouf, merci beaucoup, Carmichael. Et de pouvoir voilà, avancer en allant à l'économie sans pour autant se censurer dans la qualité créative. En fait, l'idée, c'est de dire, ouais, on fait un truc stylé, mais pour qu'il soit rentable, on est obligé de le monétiser de différentes manières. Et c'est toute la philosophie qu'on essaie de mettre dans toute la société et de dire, bah ouais, un joli dessin, il va servir aussi bien pour faire du produit dérivé qu'illustrer une œuvre que dans un jeu vidéo, etc. etc. Bientôt, l'IA qui travaille gratuitement. Un jour peut-être. Pour l'instant, on utilise des intelligences artificielles, mais uniquement pour les récits extrêmement courts, pour la simple et bonne raison qu'un illustrateur bien entraîné, il nous met une semaine à nous peindre une illu, ce qui est normal, parce que ça demande énormément de travail. Et en fait, le problème, c'est que les récits courts, ils sont écrits parfois du jour au lendemain. Et du coup, on n'a pas le temps de commander une illustration à un illustrateur. Et du coup, en fait, les illustrations, pour l'instant, on les réserve aux séries principales. Et pour les petites séries un peu plus courtes qu'on diffuse, notamment le vendredi, qui ne font que 3 épisodes, des petites nouvelles, on utilise Midjourney. Et du coup, en fait, on bosse un petit peu sur deux jambes. Une jambe où on met l'accent sur la quali, le budget, etc. Et l'autre jambe où le but, c'est de sortir quelque chose, quoi. Et qu'on préfère sortir quelque chose plutôt que sortir rien. Et du coup, on fait appel à Midjourney pour avoir une petite idée sympa. Mais on pourrait très bien aussi utiliser, par exemple, des images libres de droit. On avait fait ça aussi à une époque. Bref. Et du coup, on arrive à mettre sur pied la plateforme Tellington, youpi. Et je profite du calendrier que je sors du coup une fois par an maintenant pour annoncer la sortie de cette application. Et très vite, on arrive à plusieurs milliers d'utilisateurs sur l'app. Dont plusieurs centaines qui s'abonnent. Il faut savoir que le format d'abonnement sur l'appli, parce que c'est une application à abonnement, c'est 5,99€ par mois ou alors 59,90€ par an, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui en vrai n'est pas très cher, la plupart des applications à abonnement, on est plutôt aux alentours du 7 voire 9€ par mois. D'ailleurs, nos tarots monteront peut-être à l'avenir. Pour l'instant, on les garde faibles parce qu'on estime qu'on n'a pas suffisamment un assez gros volume de contenu pour justifier d'être plus cher pour l'instant. Et que notre stratégie, comme je vous le disais, étant de réutiliser et de développer du transmédia, le but qu'on a, c'est aussi de rajouter une boutique pour augmenter le panier moyen des utilisateurs. Par exemple, un mec qui est abonné, qui paye 5€ par mois, peut-être que s'il achète un petit poster au passage, ben, ça nous rentre 10 balles, 15 balles en plus dans la boîte. Tu vois. Enfin, c'est ce genre de logique qu'on essaie d'avoir. On est vraiment une entreprise qui a la chance de s'être bâtie et d'être bâtie autour d'une communauté au final. C'est lié au fait que, tout simplement, qu'à la base, moi, je suis YouTuber. Et du coup, l'immense majorité, on va dire un bon 80% des gens qui utilisent l'application. En fait, c'est aussi des abonnés YouTube qui nous suivent et qui nous encouragent depuis des années, qui sont fans de l'univers et qui acceptent parfois nos erreurs, parfois nos errances par moment, parce qu'au final, construire quelque chose, c'est quelque chose de difficile. Donc voilà, on a réussi à faire ce petit début de l'appli. À l'époque, Tellington, c'était disponible uniquement sur smartphone. Bravo pour le taf, franchement. Bah écoute, merci beaucoup, Loutre. Voilà, donc ce projet-là, à la base, était dispo uniquement sur smartphone parce que Kevin, mon associé, lui, il est développeur React et notamment React Native à la base, ce qui lui a permis de dev la version Android et la version iPhone avec un seul code, même s'il fallait faire des adaptations. Et très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait être utile aussi de faire une version PC, etc. Bref. Mais voilà, le truc suit son petit bonhomme de chemin. Et à ce moment-là, je reprends contact avec un gars que j'avais approché quelques mois auparavant, avant de relancer Tellington. Ce mec qui s'appelle Majid Chamek, et c'est aujourd'hui un de nos associés aussi. Et en fait, ce gars, il a un studio d'animation à Annecy, en Haute-Savoie, qui s'appelle In The Box, qu'il a cofondé avec ses associés. Et en fait, un peu enfant rêveur que j'étais, je lui avais envoyé un de mes bouquins en mode « Ouais, j'aimerais trop que tu fasses un dessin animé avec mon bouquin. » Il m'a fait « Ok, t'as de l'argent ?» J'ai fait « Non. » Il m'a fait « Lol. » Mais il m'a quand même proposé de venir visiter son studio d'animation et de discuter avec lui et tout. Et quand il a vu que, mine de rien, j'avais commencé à pousser l'aspect entrepreneurial des choses qu'on créait avec mon associé, qu'on avait un univers qui plaisait à des gens et qu'on lâchait pas, ça c'est un truc qu'il a identifié, c'est qu'on lâche pas l'affaire, on continue d'avancer quoi qu'il arrive, même quand on est dans la merde. Il nous a recontacté, il a dit « Bon, les kiki, c'est bien sympa votre truc, mais pour l'instant, vous êtes deux mecs en slip devant des ordinateurs », ce qui était le cas factuellement. Hein. On avait beau avoir créé un truc qui rapportait quelques milliers d'euros par mois, on était juste comme deux gros gogoles à avoir créé une petite SAS et à rentrer de l'argent, mais on n'avait pas de véritable vision stratégique à long terme, on avait très peu de moyens, etc. Et il commence à nous dire « Bon, les gars, moi, je pense que là, ce que vous devriez faire, c'est une levée de fonds, en fait, c'est aller chercher du pognon ». Et là commence le nouvel arc narratif de ma vie entrepreneuriale, où on passe, on va dire, du projet de pote à véritablement un projet d'entreprise. Et à partir de ce moment-là, il va nous faire rencontrer différentes personnes, et notamment le réseau Entreprendre, via sa branche Réseau Entreprendre Haute-Savoie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le réseau Entreprendre, c'est une association qui a été créée par les héritiers du groupe Mullier, si je ne dis pas de bêtises. Mullier, c'est la famille qui a créé Auchan, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Et ces gens-là ont créé cette espèce d'énorme association qui est internationale, qui est en fait une assoce d'entrepreneurs qui aide des entrepreneurs à se lancer. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas du gros capitalisme à la papa. La plupart des membres dans le réseau Entreprendre, c'est des gens qui ont des petits commerces. L'immensité des gens qui sont dans le tissu économique et qui adhèrent à ce truc, c'est des mecs qui ont des pizzerias, des salons de coiffure, des boulangeries. Il y a de tout, tu vois. Association Famille Mullier, c'est un monstre. je dirai les trucs un peu après. Enfin, bref. Et du coup, en fait, c'est ces gens-là qui aident vraiment les gens à lancer leurs entreprises. Et c'est super cool parce que moi, j'avais besoin de gens pour m'aider à lancer mon entreprise. Nous ont écoutés, ont apprécié nos projets et nous ont accordé un prêt d'honneur de 30 000 euros à l'époque. Donc, c'est un prêt. Donc ça, typiquement, je commence à le rembourser là, l'année prochaine. Là, d'ailleurs, je commence à rembourser cette année-là en décembre. Et grâce à ce prêt d'honneur, on a pu vivre entre guillemets sur la boîte pour pouvoir essayer d'avancer un peu plus sur nos différents projets. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à structurer un peu notre pensée et vraiment se comporter comme des entrepreneurs, parce qu'à la base, comme je vous le dis, on est deux couillons devant des ordi. Et donc essayer d'aller chercher de l'argent. On a notamment été approché par des réseaux, on va dire de c'était pas vraiment des réseaux de business angels, c'était plus des gens qui te formaient à créer des pitch decks. Donc pour ceux qui ne savent pas, un pitch deck, c'est un espèce de diaporama qui sert à présenter ta boîte pour lever des fonds. Enfin bref, ces gens-là nous ont aidés à faire un joli diaporama pour aller chercher des fonds. Ils nous ont dit « Bon, maintenant, démerdez-vous. » En gros, c'était ça. Hein. Alors que les mecs nous avaient plus ou moins fait miroiter que eux mettraient de l'argent dedans, ce qui, au final, s'est avéré être faux. Mais en gros, ils nous ont quand même un peu aidés à structurer notre storytelling pour aller chercher de l'argent. Et du coup, on a commencé un très long périple qui consistait à littéralement faire des calls, des conf calls et des rendez-vous à longueur de semaine. Et je pense que pendant près d'un an, on a vu au total une bonne cinquantaine de personnes différentes, avec à chaque fois un rendez-vous qui a lieu une semaine ou la semaine d'après. Faut savoir qu'à l'époque, les mecs qui nous avaient aidés à monter ce petit diaporama stylé pour présenter la boîte, ils nous avaient dit votre valorisation c'est 1,5 million. Moi, je savais pas à quoi me rattacher, mais voilà, c'était en fait la valorisation d'une entreprise, c'est du doigt mouillé parce que c'est une hypothétique valeur future de la boîte. Ils nous ont dit vous valez 1,5 million. Et nous, bêtement, on s'est dit bon bah ok, on s'est dit ça et on a construit tout notre storytelling là-dessus, toute levée de fonds là-dessus. Et au final, on a pas mal galéré à trouver de l'argent parce que beaucoup de nos interlocuteurs ne comprenaient pas notre business, ne comprenaient pas qu'on soit à la fois producteur et diffuseur. Ça, c'est un truc que beaucoup de fonds d'investissement nous ont dit, que beaucoup de business angels nous ont dit, c'est « Ouais, mais on comprend pas parce que du coup, votre appli, c'est vos histoires. Mais en fait, pourquoi vous vous embêtez à faire une plateforme? Vous pourriez vendre vos histoires à Spotify, par exemple. » Mais nous, on était « Bah non, nous, l'intérêt, c'est justement d'être à la fois producteur et diffuseur. » Ils disent « Non, mais c'est pas possible d'être à la fois producteur et diffuseur. Soit vous êtes diffuseur et vous diffusez des trucs faits par d'autres, soit vous êtes producteur et vous vendez à des gens qui diffusent. » Et en fait, les mecs étaient matrixés comme ça. Hein. C'est vraiment c'est le cliché de l'entreprise monobloc, c'est-à-dire une boîte, elle fait un truc. Sauf que nous, on est une boîte multicasquette, multifonction, on est dans la logique transmédia et tout. Et en plus de ça, on est dans le secteur artistique. Et des investisseurs, en général, ils investissent dans de la tech et des trucs comme ça, pas dans des boîtes artistiques. Et sachant qu'en plus, ça a été fondé par un youtubeur, un ingénieur, et ils comprenaient pas trop le délire. Parce qu'aucun de nous deux avait fait école de commerce et tout. Et ça, j'avoue, j'ai remarqué, hein, quand tu sors pas d'école de commerce, c'est très, très dur de faire entendre ta voix, en tout cas auprès d'investisseurs un peu random. Enfin bref, et du coup, ça a été un peu une traversée du désert. Beaucoup de désillusions, des gens qui nous ont promis de l'argent, qui au final ne l'ont pas donné. Parfois même des collègues youtubeurs à qui j'avais pitché le projet, que ça leur plaisait bien. Finalement, ils n'ont pas mis. Bon, après, c'est le jeu. Hein. Mais ça a été vraiment littéralement un an à courir après du fric. Et on nous a dit des énormités. Je pourrais en parler pendant des heures, peut-être que vous aurez des questions là-dessus après sur la levée de fonds, mais ça m'a fait me rendre compte à quel point, en fait, un investisseur, c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. En fait, moi, je suis issu d'un milieu assez précaire d'un point de vue économique, et j'ai toujours eu cette espèce d'image de si le mec est riche, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il fait bien les choses, c'est que c'est un bosseur, machin. Et en fait, la plupart des interlocuteurs qu'on a eus qui étaient pétés de thunes, c'était des gens qui n'avaient aucune forme de vision, aucune véritable stratégie. C'était juste, ils cherchaient de la rentabilité et n'étaient très rarement eux-mêmes pas du tout des entrepreneurs et n'étaient même pas foutus de faire une boîte, eux, de leur côté. C'était juste, ils avaient des gros chéquiers, quoi. Et en fait, au final, les gens qui investissent dans ma boîte, c'est des gens qui sont justement plutôt des entrepreneurs. L'art de poser son argent dans plusieurs paniers de « oui, c'est ça ». Mais au final, les investisseurs qu'on a, c'est des gens qui sont, comme je disais, ouais, plutôt eux, pour le coup, qui ont déjà monté des boîtes, plutôt dans des industries créatives, puisqu'on a, parmi nos investisseurs, des gens qui ont eux-mêmes créé des studios d'animation, des trucs comme ça, on va pas se mentir, nous investissent chez nous parce qu'ils trouvent le projet sympa, stylé, et qu'ils veulent que le truc voit le jour. On a que des business angels, c'est-à-dire des gens qui plutôt des particuliers qui mettent de l'argent en mode coup de cœur. Ouais, c'est un projet qui vaut le coup d'être financé. Du coup, on a plusieurs tickets de 20, 30, 50 000 euros pour un total de si je ne dis pas de bêtises, de quasiment 200, 250 000 euros. Donc ça, c'est de l'investissement privé. Donc c'est des mecs qui nous font confiance et qui nous donnent de l'argent. Et en fait, ça, on va s'en servir de levier auprès des banques et notamment de la BPI. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Donc en gros, c'est l'argent de l'État qui t'est prêté entreprise et tu commences à le rembourser au bout de 2-3 ans, etc. Donc, entre-temps, tu as commencé à fructifier normalement. Et c'est garanti par l'État, etc. Et tu as les banques qui vont se rajouter en face. Enfin, c'est assez intéressant à observer comme phénomène de financement. Ce qui fait qu'au final, pour le projet, on aura quasiment un demi-million d'euros de financement quand tu inclus et l'investissement et l'endettement bancaire, etc. pour piloter la suite de l'entreprise et pour passer justement de cette structure où on est deux mecs dans nos chambres en slip à avoir des locaux, recruter des gens, bosser avec des ingénieurs du son, bosser avec d'autres artistes, etc. etc. Et là, on commence justement à recevoir l'argent, enfin, sur un compte qu'on appelle un compte de dépôt de capital, qui est un compte qui est verrouillé, qui est en séquestre, et qui, en gros, sera déverrouillé que quand tous les investisseurs auront enfin fait leur virement. Et là, ça fait 2-3 jours seulement qu'on commence à recevoir des virements de 50 000 euros situés au Panama. Non, situés à BNP Paribas. Mais voilà, et du coup, c'est un soulagement parce que c'est la fin d'un cycle qui a été abominable, en vrai. Je suis content qu'on soit sorti de cette tempête d'emmerde et de frustration. C'était horrible. Mais enfin, ça y est, les mecs envoient vraiment l'argent, ont signé les chèques, et ça fait du bien, de ouf. Et du coup, la suite de ça, ça va être donc de développer Amort Ellington, de reprendre le développement de Battle for Agadia, de développer les chaînes YouTube, et pourquoi pas un jour de faire des dessins animés, et pourquoi pas, si Dieu le veut, du cinéma. Et du coup, dans nos objectifs là à court terme, il y a donc choper des locaux à Annecy pour installer une structure de production qu'on a déjà trouvée pour pouvoir avoir des équipes, créer un grand studio insonorisé avec du fond vert, avec tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle un studio virtuel, parce que je veux faire de la vidéo en plus de faire de l'audio. Et moi, mon but, c'est de créer un studio où tu peux filmer les comédiens sur fond vert, tu peux aussi faire de la motion capture. Et en fait, l'idée de dire, tu mets la technologie au service de la narration, au service des histoires, et pour que, au lieu d'avoir besoin d'un million de budget et 50 personnes, t'aies besoin de 3 mecs et quelques dizaines de milliers d'euros pour faire un truc hyper quali. Tu vois, c'est un peu ça mon but, c'est de dire, on va remplacer les coûts très élevés et la nécessité d'avoir des grosses équipes techniques par du numérique, en fait, par Unreal Engine, qui est un moteur 3D qui sert notamment à faire du jeu vidéo, mais qui est aussi beaucoup utilisé dans l'audiovisuel, et avec des petits trucs et astuces comme ça, avec quelques milliers d'euros de matériel et des bons comédiens, tu peux totalement en intérieur, en studio, créer de toutes pièces des petites séries assez stylées. Bon, j'irai pas jusqu'à dire des séries Netflix, faut pas abuser non plus, mais de la bonne grosse série digitale, de la web série qui envoie du pâté de ouf, tu vois, ça on est capable de le faire. On sera capable de le faire. Et l'idée, c'est de pouvoir pousser toujours plus loin nos capacités de production, toujours en essayant d'être malin, d'avoir un peu l'esprit du hacker, on va dire, et de dire, peut-être qu'au lieu d'acheter une solution clé en main à 100 000 euros, en bricolant quelques lignes de Python sur un Raspberry Pi et en captant un flux vidéo, on peut faire pareil, tu vois. C'est un peu ce genre de logique qu'on essaie d'avoir, tu vois. Et enfin bref, voilà. Donc, et pour moi, la suite, c'est ça. Donc, l'idée, là, c'est que dès qu'on a la totalité de l'argent, on s'empare des locaux, on commence à faire les travaux. Coup de bol, un de mes investisseurs, c'est un mec qui c'est un ancien du BTP. C'est un mec qui a eu une entreprise de BTP pendant des années, qu'on a eu marre, qu'il l'a revendu. Et du coup, typiquement, c'est lui qui va gérer tous nos travaux parce qu'il connaît tous les prix il connaît tous les artisans, tout le prix du matériau et trucs comme ça. Du coup, il va nous faire un truc hyper propre pour hyper pas cher. Et en fait, c'est un peu ça la philosophie de la boîte, c'est faire des trucs ultra clean pour pas cher. Parce que comme ça, on peut se permettre d'aller sur de la rentabilité. Et mon but, c'est d'avoir les coûts de production les plus faibles possibles pour la qualité la plus élevée possible. Parce que c'est ça, au final, je pense, la résilience économique qui nous permettra d'aller toucher du doigt mon but, qui est de créer un genre de petit Disney français, quoi. Un petit Marvel à la française, qui n'aura probablement pas des millions et des millions de fans, mais si on arrive à avoir quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de fans qui sont investis économiquement, et ben on aura gagné le game.